Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Renédine Tibonera Iliamine.
Très heureux, je vous retrouve pour cette seconde livraison de nos informations. Des cas de vomissements, des maux de tête, des vertiges et des maladies chroniques sont rapportés parmi la population vivant autour de la zone d'exploitation pétrolière de Moanda au Congo central. Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme sur cette pollution imputée à Perenco et appelle l'État à agir. La société civile de la commune de Boulengera s'est dit exaspérée par la montée de l'insécurité à Butembo au nord Kivu. Des bandits armés se sont une nouvelle fois illustrés au quartier Kayala en tuant un étudiant, incendiant une structure de santé avant de prendre la fuite sans être inquiétés. Vacances scolaires en RDC, les parents dénoncent la multiplication des frais imposés par les écoles pour garantir une place à leurs enfants. L'émission Dialogue entre Congolais s'est penchée sur cette problématique et propose des pistes et des solutions. Nous l'avons dit au sommaire, les opérations de la compagnie pétrolière et gazière Perenco présentent des risques majeurs pour la santé des populations vivant dans la concession pétrolière de Moanda dans la province du Congo central. C'est ce que révèle une enquête menée par l'ONG Human Rights Watch. Selon Agathe Sarfati, chercheuse principale au sein de la division environnement de l'organisation, cette étude s'appuie sur de preuves solides, notamment l'analyse d'images satellitaires ainsi que des clichés exclusifs provenant des sites d'exploitation pétrolière. Nous vous proposons d'écouter Agathe Sarfati dans cet extrait recueilli par Guy Maté.
Ces preuves font état de sources de pollution multiples, notamment de l'air, des sols, mais aussi des sources d'eau. L'air est pollué notamment par le brûlage du gaz à 5 km, voire à 80 mètres des habitations. Nous avons également recueilli des photos et vidéos exclusives d'un site de traitement des déchets de l'entreprise qui montre que l'entreprise brûle les déchets à ciel ouvert, ce qui est particulièrement dangereux pour la santé. Enfin, le manque de maintenance des sites d'extraction fait qu'il y a des fuites de pétrole récurrentes qui polluent les sols et les sources d'eau. Les résidents et les médecins de la concession interrogés nous ont fait part de symptômes de santé particulièrement préoccupants tels que les vomissements, les maux de tête et les vertiges. Mais il y a aussi un risque de maladie grave chronique qui est lié à l'exposition à des métaux lourds. Perenco dispose de données, notamment de pollution environnementale, qu'ils ne veulent pas divulguer. Et le gouvernement congolais a commissionné un audit environnemental il y a plus d'un an et demi, dont les résultats se font toujours attendre.
Contactée par Radio Kapi, la société Perenco promet de se prononcer dans les jours à venir. À Bandundouville, de nombreux abonnés de la Société nationale d'électricité SNEL dénoncent des factures jugées trop élevées par rapport à leurs revenus. Le président de l'Union des consommateurs du Grand Bandundu, Didier Aboukani, alerte sur cette situation et appelle le gouvernement congolais à subventionner la SNEL afin d'alléger les charges des ménages et de faciliter l'accès de la population à l'électricité. Il s'exprime au micro de Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bandundu Développement.
Vous savez que l'accès à l'électricité, c'est un droit fondamental à tous les Congolais. Mais malheureusement, sur terrain, ce n'est pas le cas. La ville de Bandundu, c'est une ville administrative où il n'y a que des fonctionnaires. Les consommateurs se voient infliger venant des factures élevées. La SNEL dit que c'est Kinshasa qui envoie la tarification via le ministère de l'énergie et de l'économie. Et nous disons, le gouvernement congolais connaît le montant qu'il paie à ses fonctionnaires. Que le gouvernement puisse prendre en charge ces entreprises-là, pareil, étatiques, commerciales, en les subventionnant. Puisque s'il ne le fait pas, cette lourde charge, c'est le consommateur final qui les paye. Ce sont des entreprises qui ont été libéralisées, qui sont devenues commerciales. Ils ont besoin de bénéfices, non? Ils vont faire les bénéfices sans même se référer à la loi. Et l'employeur et l'employé, tous sont des droits et des obligations qui doivent être respectés entre les deux parties. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas sur terrain. Les abonnés se plaignent au jour au lendemain et la situation ne change pas.
Nous allons nous rendre au Nord Kivu où l'inquiétude grandit à Butembo face à la récurrence des attaques attribuées à des hommes armés. La dernière en date survenue la nuit des dimanches à lundi dans la commune de Boulengera a coûté la vie à un étudiant, fait plusieurs blessés et entraîné l'incendie d'un poste de santé. La société civile locale appelle les autorités à renforcer la sécurité dans cette partie de la ville. Les récits de Martial Papimoukeba.
C'est le quartier Mukuna qui a été ciblé par cette série d'attaques par des hommes armés. Selon la société civile locale, les assaillants ont blessé une femme à l'armée blanche avant d'emporter de l'argent dans plusieurs habitations. Dans les mêmes quartiers, un étudiant a été tué par balle au cours de cette même nuit. À Kehala, une jeune femme enlevée par des inconnus a ensuite été retrouvée blessée. Le poste de santé Zawadi a également été incendié par des personnes non identifiées. Face à cette succession d'incidents, la société civile de Boulengera demande aux autorités de renforcer la présence sécuritaire et de protéger les habitants. John Kameta, son président, appelle les autorités à agir.
Une structure poste de santé Zawadi a été incendiée par des personnes non identifiées et jusqu'à présent les causes ne sont pas encore connues. La société civile partant de ce tableau sombre très sécuritaire, nous voudrions rappeler les autorités de jouer valablement leur rôle parce que depuis un certain temps, les bandits sont en train de déranger la quiétude de la population.
Les autorités locales annoncent l'ouverture d'une enquête. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Merci à vous, Martial Papimoukeba. Nous allons nous rendre dans la province du Maïndombe, où le FARDC annonce l'arrestation d'un chef de faction Mobondo, connu sous le nom d'Odon, ainsi que de ses gardes du corps. C'est à l'issue d'une opération menée dans la nuit de samedi à dimanche sur l'axe Luani, en territoire de Kwamont. Selon l'armée, ces responsables d'une faction armée avaient refusé de répondre à l'appel à la démobilisation lancé par le gouvernement. Anthony Molouchaï, porte-parole des opérations Ngemba des FARDC contre la milice Mobondo, explique le déroulement de cette opération au micro des Vanessa Kongolo.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont arrêté le chef Mobondo, connu sous les sobriquets d'Odon, ainsi que ses sept gardes du corps. L'opération s'est déroulée dans la nuit du samedi 25 juillet 2026 dans les territoires de Kwamout. Il s'agit d'un ancien élément de la rébellion Mobondo et disciple du Cobra, un autre chef rebelle qui continue à séjourner dans la brousse. Après avoir quitté ses mouvements, il a créé sa propre faction dans l'axe Luani, une zone agricole de Kwamout. Il a instauré depuis un temps un climat de terreur et est impliqué dans plusieurs exactions visant les populations civiles, principalement les agriculteurs. Odon avait refusé de répondre à la démobilisation lancée par le ministre délégué à la Défense, son Excellence Eliezer Ntamboué. Les FARDC ont alors mené une opération spéciale qui a permis sa capture ainsi que celle de sept gardes du corps. Les huit personnes sont actuellement détenues par les FARDC. Elles font l'objet d'une exploitation approfondie avant leur transfert à Kinshasa pour la suite de la procédure.
Ici à Kinshasa, l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba a quitté lundi l'audience de la Cour de cassation consacrée au dossier Frivao. Il dénonce plusieurs irrégularités de procédure et accuse ses adversaires d'avoir monté un dossier judiciaire contre lui. Malgré son départ, l'audience est poursuivie. Des détails sur cette audience avec Jean-Pierre Kainama.
Coup de théâtre à la Cour de cassation. Constant Mutamba a quitté l'audience ce lundi au moment où se tenait l'examen de l'affaire Frivao, dans laquelle il est poursuivi aux côtés de l'ancien coordonnateur du fonds Chansar Boukolila. L'ancien ministre de la Justice affirme que sa citation à comparaître contient des fausses mentions ajoutées par des greffiers. Il dénonce également les refus des autorités judiciaires d'enregistrer une plainte qu'il dit avoir déposée contre l'un d'eux. Devant la presse, Constant Mutamba a accusé ce qu'il qualifie de système mafieux d'être à l'origine des poursuites destinées, selon lui, à obtenir sa condamnation. Il affirme en outre avoir été privé de son droit de soulever des exceptions de procédure avant l'ouverture des débats. Malgré son retrait de la salle, l'audience s'est poursuivie. L'affaire porte sur des décaissements contestés de plusieurs millions de dollars au sein du Frivao. Pour rappel, lors de l'audience du 13 juillet dernier, la Cour avait accordé un délai de 2 semaines aux parties afin de consulter les pièces du dossier avant l'examen du fond.
8h09 à Nyamugo, dans la ville de Bukavu. Plus de 100 ménages sont sans abri sur avenue Kisangula, dans les quartiers Tchaï. Nous sommes à Bukavu, sud Kivu. Cela fait suite à l'incendie survenu dimanche vers 16h30, heure locale. Selon nos sources sur place, le feu serait parti d'un réchaud sur lequel on préparait des haricots dans la journée. Par manque de vigilance, des enfants absorbés par des vidéos sur TikTok, les flammes se seraient propagées. Ce bilan est confirmé par la société civile d'Etchaï. Toutefois, son président Choukourou Luekia dénonce le fait que de jeunes du quartier se sont violemment pris aux équipes anti-incendie, arrivés en retard sur le lieu du drame. Il est joint par Radio Okapi.
Nous condamnons également les personnes qui se rendent sur le lieu de l'incendie avec des balances kilos pour acheter des mabende, ferrailleurs ou objets récupérés auprès des victimes. Ce comportement est inhumain, porte atteinte à la dignité des familles sinistrées et aggraver leur souffrance au lieu de leur apporter une assistance et solidarité. Nous lançons aussi un appel à toute personne de bonne volonté, aux autorités, aux organisations humanitaires ainsi qu'aux partenaires pour venir en aide aux familles sinistrées qui passent actuellement leur nuit à la Belle Étoile et ont besoin d'une assistance urgente.
La radio Capi, c'est aussi la ville de Mbujimayi où elle est écoutée. Le bureau syndical national de la société minière de Bakwanga Miba dénonce la spoliation et les lotissements anarchiques des terrains appartenant à cette entreprise publique. Dans un communiqué rendu public la semaine dernière, les 8 syndicats de la Miba appellent la ministre du portefeuille, les conseils d'administration et la direction générale à intervenir en toute urgence pour mettre fin à ces pratiques. Des précisions avec Joyce Mansanka.
Le bureau syndical de la société minière de Bakwanga tire la sonnette d'alarme. Une portion importante du patrimoine foncier de la Miba, située le long de l'avenue Fatshi, fait l'objet d'une spoliation. Cette zone comprend l'espace pelouse jusqu'à quelques mètres du guest house Miba en face de l'hôtel Gloria. Selon plusieurs travailleurs résidant sur cette avenue, des responsables autochtones Bakwanga, accompagnés de certains agents des services techniques, se sont présentés sur les sites. D'autres agents affirment que cette équipe disposait d'un document officiel signé par une autorité provinciale leur donnant mandat de réaliser des études de faisabilité et d'élaborer un plan d'aménagement du quartier Kassai dans la commune de Kanchi. Le périmètre concerné s'étendre du guest house Miba situé en face de l'hôtel Gloria jusqu'à l'espace pelouse. Face à ce qui qualifie des spoliations organisées, les syndicats de la Miba exhortent la ministre du portefeuille, le conseil d'administration et la direction générale à prendre de mesures immédiates pour protéger le bien foncé de l'entreprise. Il rappelle que plusieurs autres terrains de la Miba ont déjà été illégalement occupés, tandis que certaines tentatives de spoliation restent en suspens.
Et à Kindu, une vingtaine de nutritionnistes du Maniema sont désormais renforcés en capacité sur des matières liées à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, ainsi que sur la nutrition assise communautaire. Grâce au programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR, ces professionnels ont pour mission de prévenir la malnutrition sous toutes ses formes, avec un accent particulier sur les 1000 premiers jours des vies de l'enfant dans une zone fortement confrontée à ces fléaux. Florence Kizalunga pour le reportage.
Avec cette formation, les formateurs se félicitent d'avoir transmis des connaissances acquises à ces nutritionnistes afin de faire face à ces fléaux. Docteur Numbi Chikala est l'un des formateurs.
Nous sommes convaincus d'abord par rapport à l'âge, ils vont bien vraiment pratiquer ça dans la communauté, ainsi que la nutrition ancienne dans la communauté, c'est-à-dire les changements de comportement, utiliser les matières locaux, les pratiques familiales essentielles dans la communauté, aussi les démonstrations culinaires.
Pour les bénéficiaires, cette formation arrive après plus de 10 ans. Ils promettent de répandre ses connaissances à d'autres prestataires dans toutes les zones de santé du Maniema. Richard Kamunzunzo.
Il y a des nutritionnistes qui traînent dans notre province sans en avoir bénéficié. Nous allons être en mesure d'aller renforcer les capacités de nos acteurs au niveau zonal afin que chacun de nous puisse s'approprier cette approche.
L'organisateur promet d'appuyer et d'accompagner ces derniers jusqu'à l'atteinte de leur objectif. Mathieu Kamuleta, coordonnateur PADRIR Maniema.
Après ici, PADRIR va distribuer la semence. Cette fois-ci, nous voulons assez que chaque ménage ait au moins son jardin de cage avec le principe des 4P.
Le gouvernement provincial reste regardant quant à la mise en œuvre de toutes les recommandations. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au moins 30 personnes ont été tuées au Nigeria lorsqu'un groupe d'hommes armés a attaqué un village de l'état de Kaduna situé dans le nord-ouest de ce pays. Nous sommes lundi matin, ont déclaré des habitants. Dogon Rana, secrétaire du chef du village, a déclaré que des hommes armés avaient pris pour cible le village, tirant au hasard et incendiant des maisons. 8 enfants figurent parmi les morts et 4 personnes ont été grièvement blessées.
L'invité.
Les élèves en RDC sont en vacances depuis bientôt un mois. Mais ce sont déjà le mot de tête pour les parents qui dénoncent la multiplication des frais que de nombreuses écoles imposent. Et surtout, ils demandent à ce que ces paiements serviraient des garanties des places pour leurs enfants. Mais malgré ces frais qui sont demandés, des explications ne suivent pas parce que pour la plupart des responsables d'école, cet argent devra servir d'acompte, des frais de bulletin ou encore de la carte ou des frais de médecins ou des dons. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier soir ont analysé ces problèmes. On les écoute au micro de Guy Maté, proposant ainsi des solutions.
Jean-Pierre Tshiswabantu, vous êtes chercheur et doctorant en psychologie de l'orientation à l'Université pédagogique nationale. Comment vous comprenez cette multiplicité des frais que les écoles exigent aux parents avant la rentrée scolaire?
Au fait, ici, je voudrais, en tant qu'expert, préciser une chose. Au fait, il y a deux exigences. Les exigences pour revêtir la qualité ou la casquette d'un élève, il faut d'abord commencer par confirmer son inscription. Le coût, oui, les parents doivent avoir raison. Moi, j'aurais souhaité à ce que l'État qui réglemente le fonctionnement de l'enseignement démocratique du Congo puisse aussi mettre en place des mécanismes de suivi, parce que tout à l'heure, là, nous aurons des circulaires de la ministre de l'Éducation nationale qui donnent des instructions et des orientations. C'est bien bon de les prendre ainsi, mais il faut aussi des mesures d'accompagnement, les mesures d'encadrement pour s'assurer que le chef d'établissement au niveau des établissements, au niveau plutôt des écoles, ne parte pas au-delà de ce qui peut alors se présenter comme un fardeau ou une charge sur les épaules des parents.
On a même l'impression qu'il y a un laisser-aller, hein, parce qu'on ne peut pas comprendre que l'État puisse, dans sa nomenclature, prévoir des frais pour la confirmation. Lorsque on va jusqu'à taxer aux parents des montants allant de 200 à 300, 400 dollars comme frais de confirmation, est-ce que l'État peut insérer ça dans sa nomenclature? Ou c'est seulement au niveau des écoles que l'on prend de telles initiatives?
Ces pratiques sont beaucoup plus rencontrées dans les écoles privées, mais je crois que ces écoles ne peuvent pas fonctionner comme des électrons libres dans un pays où la loi existe. Les promoteurs, les représentants sont là, je crois qu'ils ont toujours des rencontres avec la hiérarchie et ils essayent de tabler là-dessus. Mais que l'État prouve son efficacité sur le terrain, parce que l'État a l'œil partout et puis il voit partout.
Merci Jean Bosco Pouna, vous êtes secrétaire général de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Quelle analyse vous faites de ces frais multiples qu'exigent chaque année de nombreuses écoles de la RDC aux parents avant la rentrée scolaire?
Bon, il faut dire que jusqu'à maintenant, à notre point de vue, Madame Lamineta n'a pas encore sorti la circulaire fixant les différents frais qu'on doit payer. Mais déjà, je dois vous dire que les frais dits d'inscription, les frais de confirmation, les frais de suivi à l'examen d'État ou encore les frais pour le retrait du certificat, ce sont des frais prohibés alors. Donc, les parents, en principe, ne devraient pas être sollicités pour ces différents frais. Inscription, confirmer l'inscription. Je crois que nous attendons, nous tous, la circulaire fixant les frais que madame doit prendre. Nous ne savons pas pourquoi ça traîne.
Quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez proposer pour sortir de cette situation?
Moi, je crois que dans l'action inspectorale, vous avez la formation, les contrôles et l'évaluation. Mais lorsque vous prenez ces différentes actions qui doivent être assurées par l'inspection de l'enseignement, eh bien, du point de vue de la formation, nous allons tous comprendre que la formation est très insuffisante. Du point de vue des contrôles, eh bien, là-bas, ça ne marche pas. Du point de vue des évaluations, c'est aussi un véritable rendez-vous manqué. Donc, je crois qu'il faut que l'État se remette en question pour ne pas regarder. Nous avons parlé ici de la spoliation des sites scolaires. Mm-hmm. Mais quelles sont ces personnes-là qui sont en train de vendre les sites scolaires? Vous arrivez au niveau de Matongé, vous trouvez des immeubles des Libanais qui sont en train de pousser. Dernièrement, nous avons fait un tour au niveau de Saint-Louis, Collège Saint-Louis, en face du camp Kokolo. Eh bien, on est en train de construire. Mais l'espace scolaire, ce sont des espaces qu'on avait réservés pour construire des bibliothèques, pour construire des salles de conférences. Donc, les espaces qui sont au niveau des écoles, ce n'est pas des espaces qui doivent être récupérés par des tiers. Voilà un peu le désordre qui est au niveau du ministère. Et il faut absolument que Mme Lamineta joue son véritable rôle avec, bien sûr, tous ses collaborateurs. Donc, nous disons ici, l'école que nous avons aujourd'hui a des problèmes. Quelles sont les solutions? Eh bien, nous avons besoin de concertations avec l'autorité des tutelles avant la rentrée pour parler de toutes ces questions et donner des propositions en temps utile.
La plus belle femme du monde est donc Sekela. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à Richard Kamunga pour la coordination, Jean-Claude Siala à la partie technique, René Linti Bonera et Diamine à la présentation.